chez le roi. Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Thierry Ardisson, journaliste, polémiste, écrivain, homme de télévision, est aussi monarchiste. Très lié avec Luis Alfonso de Bourbon, il lui a même demandé d'être le parrain de sa fille Ninon, ce que Louis XX a accepté de bonne grâce. À l'occasion de la sortie du livre de Thierry Ardisson, Louis XX, Bruno de Cessol livrait une critique éclairée dans le Figaro du lundi 1er décembre 1986. Ce livre est une contre-enquête sur la monarchie, publiée aux éditions Orban. Ardisson était titré par Bruno de Cessol « Le monsieur loyal de la monarchie ». La tête coupée de Louis XVI serait-elle l'ultime tabou des Français ? À en juger par les récentes polémiques autour de la Révolution et de son bicentenaire, il semble que le fantôme raccourci du citoyen capé continue de hanter l'inconscient national. La flaque de sang qui baptisa un certain matin froid de janvier 1791 la République française ressemble fort à la tache sur la main de Lady Macbeth, cette flétrissure indélébile que toute l'eau de l'océan ne pourrait effacer. Voilà un stigmate de Marianne que la liturgie républicaine se garde le plus souvent de mettre en lumière. Tout se passe comme si l'acte fondateur de nos institutions républicaines, meurtre sacrificiel, dont René Girard a souligné le rôle fondamental dans une société primitive, n'était toujours pas assumé dans la mémoire collective. Éternel brandon de discorde, il attise encore cette rhétorique de guerre civile dont les Français, quand ils s'ennuient, ont coutume de se délecter. À nouveau, le comité de salut public, par la voix autorisée des néo-robespierristes, gardiens sourcilleux du dogme, décrète que la République est en danger et que la Bastille est à reprendre. « Au secours ! L'ancien régime revient !» On est prié de ne pas rire. Naguère, les conservateurs brandissaient pour les besoins de leur cause la thèse commode du complot maçonnique. Aujourd'hui, une certaine gauche, héritière des meilleures traditions du terrorisme intellectuel de 1796, crie « Haro !» sur un prétendu complot révisionniste visant à discréditer le catéchisme républicain et à réhabiliter le principe monarchiste, si ce n'est le règne des privilèges. Accusé ? Ces nouveaux muscadins que sont, dixit Max Gallo, qui doit se prendre lui pour Fouquier-Tinville, les historiens Pierre Chaunu, Reynald Secher, François et Frédéric Bluch. Dernier en date à passer devant le tribunal révolutionnaire, l'écrivain et publicitaire Thierry Ardisson. Son crime ? Tout d'abord, Ardisson, enfant du rock et du cinéma, est coupable de ne pas ressembler à l'idée que l'on se fait d'un partisan de la royauté. Un brontosaure arriéré, portant des fixes chaussettes, affectionnant l'imparfait du subjonctif et nostalgique du paradis perdu d'avant 1789. À première vue, rien ne permet de distinguer ce jeune homme moderne de la gauche branchée qui lit Globe. Cette scandaleuse distorsion entre l'être et le paraître risque de perturber les âmes simples et manichéennes. Ensuite, Ardisson a osé transgresser le tabou des immortels principes. Pour lui, la révolution ne se confond pas avec l'avènement de la raison dans l'histoire, avec des majuscules. Pas davantage, les 43 qui en 1000 ans firent la France ne sont pour lui, a priori, comme le prétendait Michelet, l'incarnation de l'obscurantisme, de l'oppression et de l'arbitraire. Essai historique, ni libelle politique. Son livre « Louis XX » est une démystification de l'histoire officielle, celle des manuels partisans, destinés par Jules Ferry à fabriquer de bons petits républicains. À sa manière, fort peu conventionnelle, Thierry Ardisson rétablit un équilibre historiographique, malmené par une désinformation aussi insidieuse qu'efficace. Louis XX, c'est un peu « si les Bourbons m'étaient comptés » en vidéoclip. En une dizaine de séquences clés, la convocation des États généraux en 1789, les derniers moments de Louis XVI, le retournement de Louis XVII au Temple, l'œuvre de réconciliation de Louis XVIII, l'exil intérieur de Charles X, le grand refus du comte de Chambord, Ardisson, monsieur loyal de la monarchie, restaure les portraits souvent défigurés des derniers rois Bourbons, sans voiler pour autant leurs erreurs ou leurs défauts. Chemin faisant, par le biais d'images frappantes et de formules choc, le nouveau champion du roi mène, tambour battant, campagne en faveur du principe monarchique et du prétendant qui l'incarnera au seuil de l'an 2000, Louis XX de Bourbon. Car, pour aggraver son cas aux yeux des vestales républicaines, l'auteur est légitimiste. Ainsi rappelle-t-il certains arguments tombés dans l'oubli, mais auxquels la cohabitation actuelle redonne une vigueur et une pertinence savoureuse. À savoir que la royauté, consensuelle par essence, ne peut se réduire à un courant ou à un parti politique, qu'elle transcende le clivage droite-gauche, qu'elle assure la continuité des institutions et incarne le pouvoir suprême mieux que des principes astraits. Que le roi, contre-pouvoir absolu, arbitre les conflits et sert de garde-fou à tous les extrémismes. Autant de raisons traditionnellement invoquées par l'apologétique monarchiste, mais qui prennent sous la plume incisive et gouailleuse d'Ardisson un relief inattendu. Il y a quelques mois, Laurent Dispot soutenait avec brio que l'archaïque pouvait être le comble de la modernité et citait en exemple le roi Juan Carlos. Fourier et sauveur de la jeune démocratie espagnole, c'est le mérite de Thierry Ardisson que de montrer combien archaïque, sans être dépassé, la royauté peut être paradoxalement le dernier mot de la modernité et de la sagesse politique. Allons, Français, encore un effort! Dans la chronique « Esprit libre » du Figaro Magazine du 13 février 2015, Éric Mention Rigaud constatait quant à lui que la France s'était réconciliée avec sa noblesse. À l'heure où sur un ton solennel on nous rebat les oreilles avec les valeurs sociales ou républicaines, la France redécouvre ses anciennes élites et, au nom de l'histoire, se prend à les aimer. Mais si, écoutez donc Éric Mention Rigaud, il sait de quoi il parle. On serait presque tenté de dire « Mais quelle drôle d'idée de s'intéresser aux nobles au XXIe siècle. Êtes-vous pionnier ou archéologue ?» Éric. Pionnier à l'évidence, car j'ai débuté mes travaux dès la fin des années 80, constatant, malgré certains a priori universitaires, que les nobles n'étaient pas morts, j'ai opté pour une méthode ethno-historique fondée sur nombre de documents contemporains, ainsi qu'une enquête ciblée sur 450 familles. Alors que deux éditeurs ont accepté de publier ma thèse, un troisième, et non des moindres, s'y est refusé, accompagnant sa décision de ce commentaire. Mais comment se fait-il que cette société-là se reproduise avec cette constance, cette force, et échappe dans une certaine mesure à l'acculturation ? D'une manière toute robespierriste, il avait déjà tout compris. Dès lors que les études concernant la noblesse étaient réservées aux médiévistes et aux modernistes, et que les travaux universitaires sur la période contemporaine se focalisaient sur les mondes ouvriers et paysans, une analyse de la noblesse ne pouvait apparaître que comme une sorte de non-sens. C'est alors qu'est survenu l'effondrement du communisme, événement majeur qui a clos définitivement le XXe siècle. Siècle bref et tragique, amorcé en 1914 pour s'achever en 1989. Avec l'avènement du XXIe siècle, les anciennes élites sont souvent redevenues visibles, particulièrement au sein des pays désoviétisés. En République tchèque, le prince de Schwarzenberg, conseiller de Václav Havel, puis ministre des Affaires étrangères, a œuvré pour la restitution des biens des familles nobles spoliées entre 1948 et 1989. Dès les années 90, lors des cocktails de l'ambassade de Russie à Paris, on trébuchait sur les grands-ducs, ainsi que sur les altesses royales d'Europe occidentale. En 2013, le bicentenaire des Romanov a marqué l'apogée du retour de l'aristocratie russe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, Nicolas II joue le rôle de Sissi à Vienne, tout comme Marie-Antoinette à Versailles, le tout agrémenté de produits dérivés qui se vendent très bien. En introduisant la noblesse contemporaine dans le chantier historique, je n'ai donc fait qu'anticiper la confirmation de la pérennité d'un monde. Les familles nobles s'inscrivent dans l'histoire longue. Comme le dit Rémi Brague, est noble celui qui est de quelqu'un, de quelque part, de quelque chose, et qui, se sachant tel, veut aussi que quelque chose, que quelqu'un, provienne à son tour de lui. Telle est la définition de la noblesse, dont les yeux sont braqués aussi bien sur le passé que sur l'avenir. Thank you. que Napoléon a voulu constituer une cour, il a nommé le marquis de Ségur, grand maître des cérémonies, et usé et abusé du crédit de Joséphine pour attirer à lui l'ancienne noblesse. C'est ainsi que, de façon toute naturelle, le XIXe siècle a reconnu aux anciennes familles la maîtrise des critères de l'élégance et la taxinomie du savoir-vivre. Sans doute, nombre de leurs enfants qui ont sucé le lait républicain des Mallet et Isaac dans les écoles publiques du XXe siècle se sont-ils retrouvés stigmatisés, avec un mélange d'envie et d'agressivité sans culotte. Mais cette époque est révolue car nous sommes arrivés à un tournant de civilisation. L'accélération des technologies a profondément métamorphosé les mentalités. Le rejet des élites anciennes n'est plus de mise. Hormis quelques quolibets sur son caractère parfois confit et assurément catholique, la noblesse, par ses qualités intrinsèques, provoque aujourd'hui un regain d'intérêt, voire de sympathie. D'abord parce que l'argent a changé de main, avec une mondialisation doublée d'une crise financière qui profite aux fortunes déjà colossales, tandis que partout dans le monde s'aggravent les inégalités. L'ostentation du luxe est étrangère aux valeurs de la noblesse. Elle pratique une discrétion de bon aloi à l'égard de l'argent. Ce n'est donc pas elle qui pourrait être vilipendée par l'extrême gauche, à la différence des représentants du bling-bling, symbole d'accaparement et de vulgarité. Les nobles n'étant pas réductibles à l'argent, ce n'est pas au château que s'en prendraient les émeutiers ou les nouvelles élites révolutionnaires, mais aux propriétés clinquantes, aux voitures de luxe, aux yachts amarrés dans les marinas ou à certains comptes en banque. La deuxième raison concerne le patrimoine historique qui est devenu une valeur consensuelle en France. Les vieilles familles se donnent du mal pour maintenir leur château, au prix souvent de grands sacrifices et avec des difficultés sans cesse croissantes. D'où la sincère reconnaissance du public lorsqu'elles ouvrent leur maison. De même, si vous assistiez à certains conseils municipaux, vous seriez étonné du respect avec lesquels les maires s'adressent à « Monsieur le Comte ». C'est dans les périodes de grands bouleversements qu'apparaît l'utilité des valeurs pérennes. Les familles nobles maintiennent l'ancrage terrien, une présence séculaire qui crée des liens affectifs, une épaisseur historique valorisante pour un village. Elles défendent un patrimoine et un environnement désormais perçu comme appartenant également à la collectivité. Qu'elles aient d'autres valeurs que l'argent et qu'elles incarnent l'histoire, avec un grand H, sont autant d'éléments qui les rendent attrayantes. Les nobles devront choisir entre la qualité de citoyen et celle de paria, avertissait le baron de Barante au début du XIXe siècle, au moment où la vie parlementaire commençait à s'organiser. Optant pour la première solution, ils ont survécu à leur non-être juridique et ont réinventé leur insertion sociale, tout en sauvegardant leur identité, avec une assise foncière qui a fondé leur influence politique, économique et sociale. La possession de terres leur a donné une légitimité certaine pour représenter la population rurale à la Chambre, au point que les années 1870 ont été celles de la République des Ducs. Aujourd'hui, la noblesse citoyenne est plus que jamais présente et même surreprésentée si l'on songe que le nombre de familles authentiquement nobles n'excède guère les 3000, soit environ 100 000 individus pour 66 millions d'habitants, soit à peine 0,2% de la population. On les trouve au Sénat. Jocelyn de Rohan-Chabot, Emery de Montesquieu Fezensac, Henri de Rincourt, Roland du Luard. Dans les ministères, Gilles de Robien, Hervé de Charette. De la banque à la diplomatie, en passant par l'immobilier, l'industrie, la justice, l'armée, l'architecture, les sciences, la mode, le baron Sellière, Henri de Castres, Yves Thibault de Silly, Alexandre de Juniac, Hubert d'Ornano, Louis-Albert de Broglie, Éric de Montgolfier, le général Pierre de Villiers, Christian de Porzamparc, Pierre-Gilles de Gênes, Hubert de Givenchy. J'arrête ici cette litanie qui prendrait des pages. Le service du bien public se manifeste aussi par un très fort engagement dans le bénévolat. Aux Bernardins, vous trouverez nombre de noms à particules, de même qu'aux orphelins d'Auteuil, au Secours catholique et a fortiori dans l'Ordre de Malte. Le socle de leurs valeurs s'enracine dans la chevalerie. L'honneur, le dévouement, la droiture, ainsi que dans la tradition chrétienne. le respect du décalogue, le refus de pécher contre l'espérance, le sens du pardon et de la générosité. Les nobles pêchent d'autant moins contre l'espérance qu'ils sont tournés vers l'avenir. Quant à leur générosité, elle n'a rien à voir avec le mécénat dont la motivation première est souvent la défiscalisation, avec profit en termes d'image, agrémenté de décorations pour certains grands patrons. Si le mécénat du Louvre est incontestablement une initiative louable, il doit être considéré pour ce qu'il est, sans rapport avec la charité qui veut que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Singulière noblesse dont nous parlerons encore, l'héritage nobiliaire dans la France contemporaine d'Éric Mention-Rigaud est riche de 377 pages et publié chez Fayard. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Thank you.